Les Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu. La foire de Bourail a permis une nouvelle fois de mettre en avant la qualité de l'élevage et de la viande calédonienne. Mais comment se porte la filière viande? C'est le thème de ces Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu cette semaine. Avec nos quatre invités, nous sommes en compagnie du directeur de l'OSEF, Frédéric Espinoza, du directeur de la Chambre d'agriculture et de la pêche, Guilain de Coudenove, du directeur de l'interprofession viande, Samuel Prévost, et nous sommes en ligne avec le président du syndicat des éleveurs depuis Pointe-Boute, Guy Monvoisin. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Merci Guy d'être avec nous aussi en direct et merci à tous les autres d'avoir participé et de participer à cette émission pour faire un état des lieux de la filière viande dont on a réuni, je crois, les principaux acteurs dans cette émission. Alors quand on parle de filière viande, économiquement, Frédéric Espinoza, de quoi parle-t-on exactement ?
Alors pour ce qui concerne les filières qui sont gérées par l'OSEF et dans laquelle l'établissement intervient, il s'agit des filières donc bovines, porcines, cervidées, ovins caprins. Ça représente environ 600 éleveurs qui travaillent avec nous chaque année, et donc des familles derrière ces éleveurs et aussi des employés. On verse au niveau de l'OSEF à peu près 3 milliards de francs chaque année. Donc c'est, en termes de PIB de la brousse, c'est important. Ça concourt à fixer les populations rurales et à fournir une activité dans ce large pays qui est, comme vous le savez, très affecté, la brousse est très affectée par la disparition de l'activité minière.
Est-ce qu'il y a d'autres chiffres qu'on peut mettre en avant, Samuel Prévost, pour voir ce que pèse cette filière viande ?
Oui, outre le chiffre d'affaires au niveau de l'OSEF, il ne faut pas oublier par ailleurs l'aval, donc les bouchers, hein, on a plus d'une cinquantaine d'établissements, les emplois connexes en amont également, les distributeurs de matériel, il y a les provenderies, les deux provenderies qui fournissent notamment les éleveurs porcins. Donc voilà, c'est difficile de donner un chiffre précis, mais on a plus de 200 emplois indirects, environ 120 employés à l'OSEF, 600 éleveurs, comme l'a dit M. Espinoza. On est sur des filières qui sont présentes sur tout le territoire, donc vraiment une grosse partie de l'économie et un potentiel avec des parts à prendre sur l'importation, donc un potentiel de développement.
On va en parler bien sûr, parce que c'est l'un des enjeux de la période que vit actuellement l'élevage calédonien. Peut-être pour compléter, Guilain de Coudenove, on s'aperçoit que quand on parle de filière, en fait c'est tout un écosystème, hein, pour reprendre un terme un peu à la mode, autour de la viande en Calédonie.
Tout à fait, et ce qui est important de rappeler, c'est le poids de la filière, des filières viande, de la filière bovine notamment, en termes de surface agricole, hein, sur le foncier. L'emprise sur le foncier des élevages, hein, on parle aujourd'hui de 150 000 hectares de foncier, de surface agricole utilisée, et on est sur 80-90% qui est dédié aujourd'hui à l'élevage bovin notamment, élevage très extensif. Et donc là, on a un poids économique aussi en termes d'occupation de cet espace, en termes d'aménagement de cet espace, d'entretien et d'emploi qui sont aujourd'hui situé en brousse.
Frédéric Espinoza, vous parliez hein, des différents types d'élevage, bovin, caprin, porcin, etc. Ils ne pèsent pas le même poids. Hein. C'est vraiment l'élevage bovin qui est aujourd'hui le plus développé en Nouvelle-Calédonie.
L'élevage bovin et l'élevage porcin effectivement, voilà. ils se partagent le marché. Effectivement, ce sont des filières importantes. Et ce qui est important de souligner, c'est que dans le contexte de crise actuelle, on est à un taux d'autosuffisance et d'autosatisfaction des besoins du marché de l'ordre de 85%, ce qui est énorme en Calédonie. Il y a peu de filières qui peuvent s'enorgueillir de tels résultats. Alors c'est effectivement mécanique, puisque on pourra en discuter plus tard, le marché global de la viande s'étant effondré, on a perdu 20% de marché depuis les exactions du mois de mai. On a maintenu la production locale à son niveau avant crise, et ce qui fait que mécaniquement, puisqu'on importe moins pour réguler, mécaniquement, on a augmenté le taux de couverture du marché par la production locale.
Pour compléter cette première approche hein, de la filière viande, vous voulez ajouter quelque chose, Guy Monvoisin ?
Non, maintenant, c'est je pense que mes collègues ont fait un peu le tour du monde rural, la présentation, en fin de compte, du monde rural. Les filières viande ne sont pas... Il n'y a pas que les filières viande, bien sûr, les filières végétales aussi. Mais disons que l'occupation des sols hein, est faite principalement par les filières viande. Et donc, ben, c'est, c'est, c'est une tendance forte de maintien du tissu rural.
Et la volonté de maintenir la production et un cheptel en nombre constant malgré la baisse de la consommation, parce qu'aujourd'hui on est confronté à ça, ça vous semble une stratégie qui est la bonne aujourd'hui? Il n'y a pas d'autre choix?
Ah ben écoutez, si nous, on l'a, je crois qu'on l'a dit, on était avec M. Brinon en commission plénière au Congrès le mois dernier, c'est que si l'OSEF aujourd'hui qui travaille en tir tendu et qui essaye de maintenir le niveau de production comme il était avant les émeutes, le jour où on aura besoin, si, et ce qu'il faut espérer, hein, alors ça c'est une de nos craintes et des menaces qui pèsent, qu'il faut espérer que l'avenir institutionnel et politique s'éclaircisse, mais si, ça s'est déjà un peu passé sur la filière porc, mais s'il faut que les éleveurs aujourd'hui diminuent leur cheptel mère, c'est-à-dire leur cheptel reproducteur, on ne le refera pas avant des années, et non seulement on ne le refera pas avant des années, mais il va falloir remettre des sommes colossales dans l'agriculture pour le faire démarrer. Donc le maintien de l'existant est essentiel. C'est ce que nous n'arrêtons pas de répéter, parce que nous n'avons pas, malgré l'enchevêtrement, toutes ces crises qui se sont déroulées entre Covid, climat et émeute, on a maintenu globalement les éleveurs ont maintenu le niveau de leur production.
Alors, maintien du niveau de la production, ça veut dire que vous êtes accompagné évidemment par la Chambre d'agriculture et de la pêche, Guylain de Couneuf, et qu'il faut aussi trouver de nouveaux débouchés. On va en parler avec Frédéric Espinoza et Samuel Prévost. Un mot peut-être, Guylain de Couneuf, sur l'accompagnement nécessaire pour le maintien du cheptel.
Ce que disait Guy Monvoisin est important. Effectivement, une des priorités de nous, Chambre d'agriculture et de la pêche, c'est de maintenir le revenu des agriculteurs et évidemment des éleveurs. Ça passe par notamment, alors il y a une question des prix, il y a une question de marché, mais il y a aussi la question de l'attractivité aussi de cette profession. Et il y a la question derrière, en filigrane, c'est celle du foncier, c'est-à-dire que maintenir aussi les surfaces qui sont dédiées à ce type de production aujourd'hui. On sait très bien que si ces surfaces disparaissent, demain on aura beaucoup de mal à les retrouver. Et donc derrière, il y a l'enjeu, l'ambition
de travailler sur la problématique. Pardonnez-moi, les surfaces sont liées aussi à la qualité de la viande. Hein.
Oui, on est sur une production très extensive. Donc si on veut maintenir cette qualité qui est exceptionnel, on va en reparler probablement tout à l'heure de notre produit calédonien. Si on veut maintenir cette qualité-là, il nous faut de la surface pour maintenir ce type d'élevage super extensif. Donc tout l'enjeu du travail, c'est maintenir le revenu des agriculteurs pour maintenir cette attractivité du métier et deux, faire en sorte de pouvoir sécuriser le foncier tel qu'il existe aujourd'hui. Je rappelle qu'en 20 ans, on a perdu près de 80 000 hectares de foncier. Je parlais de 150 000. En 20 ans, si on regarde le registre agricole et de la pêche, registre agricole, on est passé de 220 000 à 150 000 en 20 ans. Aujourd'hui, on est à 150 000. Si on veut que cette tendance, elle s'arrête et qu'on ne se retrouve pas à 80 000 dans 20 ans, il faut absolument réagir derrière pour maintenir la profession et même dans un contexte, là, dans une conjoncture qui est effectivement assez défavorable. Mais voilà. On ne doit pas relâcher, en tout cas, notre attention, notre vigilance par rapport à ça.
Alors, Guy, mon voisin, je ne vais pas vous demander le salaire d'un éleveur, mais quand même, quelles sont ses charges, quelles sont ses rentrées d'argent? Est-ce qu'aujourd'hui, un éleveur vide sa production ou est-ce qu'il tire le diable par la queue? Comment ça se passe?
Je ne vais pas dire qu'on tire le diable par la queue parce que en 15 ans, à peu près, on a, avec la volonté du gouvernement et de toutes les institutions, on a pratiquement doublé le prix de la viande. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'un éleveur qui techniquement est bon, qui a une bonne exploitation, qui a bien travaillé, il peut gagner sa vie. Hein, il faut dire les choses. Tout n'est pas à rose. C'est sûr que ces trois dernières années depuis la Covid, on a toujours le même chiffre d'affaires, mais on a moins de revenus parce que tout a pratiquement doublé. Le carburant, le matériel agricole, tout a doublé. Et vu la conjoncture, bien évidemment, on n'a pas ajusté encore le prix de la viande avec ça. Justement pour essayer de ne pas justement, dans un contexte économique comme ça, et avec 20% de baisse de la consommation, on n'a pas ajusté. Donc, on a moins de revenus qu'il y a 3 ans.
Voilà. Vous avez un peu moins de revenus qu'il y a 3 ans, voilà. Ok. Sur la question des prix de la viande, Frédéric Espinoza ou Samuel Prévost, c'est des prix qui sont stables aujourd'hui, hein, au niveau de l'OCEF en tout cas.
Alors il faut savoir que les prix de cession de l'OCEF sont décidés par le gouvernement et n'ont pas changé depuis fort longtemps. C'est une des conditions de stabilisation du marché. Ce qu'il faut encore une fois...
Pardonnez-moi, c'est le prix auquel l'OCEF achète les bêtes aux éleveurs. Hein.
Le prix d'achat des animaux aux éleveurs est fixé par le gouvernement, comme le prix de vente des carcasses et des coupes commercialisées par l'OCEF auprès donc des distributeurs, des bouchers et exploitants de boucheries et transformateurs. Et donc le prix est libre à partir des portes de l'OCEF. D'accord. Et ce que je peux souligner, c'est que l'organisation des filières viande en Calédonie est assez originale et aujourd'hui montre son efficacité parce que l'OCEF donc privilégie l'écoulement de la production locale qui est prioritaire et ce qui fait que la production locale reste peu ou prou au même niveau qu'avant crise. C'est donc sur l'importation qu'il y a eu une forte baisse, c'est là que la régulation s'opère puisqu'on a baissé nos importations de 30%, de plus de 30%. Donc voilà, c'est un système qui privilégie toujours la production locale et qui permet aux éleveurs de continuer à exercer leur activité malgré la crise.
Alors l'interprofession viande est chargée aussi de valoriser hein, la viande calédonienne, de trouver des débouchés, de faire en sorte qu'elle s'écoule bien. Là-dessus, vous travaillez parce que quand il y a une baisse de la consommation, Samuel Prévost, il faut trouver peut-être de nouveaux moyens de vendre la viande calédonienne.
Oui, on fait face à une baisse de l'ordre de 20% globalement hein, des ventes à l'OCEF. Cette baisse, elle se maintient. Hein, les perspectives sont pas roses. Donc en effet, on essaye de diversifier. Hier, j'étais avec des chefs de cantine pour essayer de voir par quels moyens on peut augmenter la proportion de viande locale dans les assiettes, notamment des enfants. C'est un des leviers hein, dont on dispose. Aujourd'hui, alors on était avec des chefs de cantine qui sont déjà très engagés dans cette démarche. Donc on avait d'ores et déjà environ 30% de produits locaux dans les assiettes. Mais ce n'est pas le cas malheureusement de toutes les collectivités, avec un pouvoir d'achat très faible, hein, des chefs de cantine également. Donc ça, c'est un des leviers. C'est un des leviers, on en a d'autres avec les autres types de collectivités sur le territoire. Au niveau des particuliers, on fait également de la communication. On a pu faire notamment la foire de Bourail, des dégustations, de la communication sur les réseaux sociaux. On a une viande locale d'excellente qualité, mais encore faut-il pouvoir la vendre dans les conditions économiques actuelles. Hein. Les boucheries constatent dans le chiffre d'affaires une évolution très importante entre le début et la fin du mois, chose qui était moins marquée. Ça avait déjà commencé avant la crise de 2024, mais c'était moins marqué. Donc il faut un peu se réinventer au niveau de la communication sur le territoire. Après, il y a une volonté aussi. Il faut une volonté. Quand on est allé, puisqu'on va parler de l'export...
Oui, on va parler juste hein, après, oui.
Voilà, ça c'est une autre porte. Et bon, on est allé en Polynésie, notamment avec la Chambre d'agriculture et l'OCEF. Et on a pu voir qu'il y a des obligations sur la consommation de viande locale au niveau des collectivités, notamment au niveau des cantines. Pour le moment, on n'a pas encore ce genre de dispositif. Je pense que ça reste l'avenir de miser sur nos filières. Il y a un moment où il faut vraiment inciter. Et cette incitation, elle permet par ailleurs de parler de sécurité alimentaire, c'est-à-dire que quand on mise sur la durabilité de nos filières, qu'on pérennise l'activité, il ne faut pas oublier que la prochaine crise, elle sera probablement d'ordre alimentaire aussi bien qu'économique. Donc misons sur nos filières, et notamment sur la filière viande qui est déjà bien structurée, bien installée.
Alors quand vous entendez ça, Guy Monvoisin, et notamment, moi c'est un pourcentage qui m'a fait réagir, 30% de produits locaux dans les cantines, on peut trouver que c'est bien, on peut trouver aussi que c'est pas suffisant. Donc vous aimeriez peut-être que les petits Calédoniens mangent plus de viande calédonienne ?
Ah oh ben certainement, oui. Là, tu demandes à un convaincu.
oui, c'est vrai. Pardon. La réponse est comprise dans la question, je suis d'accord.
Oui, c'est une question, et Samuel vient de le dire, mais c'est vrai que c'est on en parle depuis très longtemps du problème des cantines, où il est évident qu'un repas à 250 francs pour nourrir un gosse, c'est rien, quoi. Et des discussions qu'on a, d'ailleurs, qu'on a eues en réunion avec les transformateurs, ils nous disent clairement que au lieu de manger ces viandes, ces boulettes, je ne vais pas citer de marque, hein, dont je n'ose même pas imaginer le mode de fabrication, hein, oui. Qu'on met dans l'assiette de nos enfants, Et sur la transformation, il y a beaucoup de choses à faire. Les transformateurs nous disent, nous, avec un peu plus et peut-être le soutien direct à ces collectivités, on peut vous faire de la boulette de viande ou du burger de très grosse qualité. Mmh. Avec une qualité de viande calédonie, quoi. Voilà. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a... on trouve dommage qu'on n'arrive pas encore à susciter ces stratégies et ces objectifs pour vraiment pouvoir d'abord écouler de la bonne viande et puis nourrir sainement nos enfants. Quoi.
On sait que ça, c'est un combat qui est mené aussi par la Chambre d'agriculture et de la pêche régulièrement. Alors parlons aussi de l'autre débouché qui commence à se mettre en place pour la viande calédonienne, c'est l'exportation. Il y a déjà eu un envoi d'un conteneur de viande en Polynésie française qui devrait arriver, si j'ai bien compris, sur les étals polynésiens en première quinzaine de septembre. Il y a une approche avec Wallis et Futuna pour pouvoir aussi exporter du bœuf, notamment calédonien. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, Guylaine Koudnov et Frédéric Espinoza, de cet export? Est-ce que c'est vraiment... au-delà de l'écoulement du surplus de viande actuel en Calédonie, un débouché et une source de revenus pour la Calédonie qui peut s'avérer importante, Guylaine Koudnov.
Alors ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas rester les bras ballants à se dire on n'a plus de marché et derrière on dégrade, c'est toute notre filière et tous nos producteurs, nos éleveurs qui en seront touchés. Il faut absolument qu'on trouve des solutions. On a parlé là des cantines, effectivement. Mettre plus de viande locale dans les cantines, c'est un vrai axe de développement et de maintien et de soutien à la filière, aux filières viande. Et puis, ce qu'on a pu constater avec nos partenaires des autres chambres consulaires de Polynésie et de Wallis et Futuna, c'est que finalement, on avait bon nombre d'enjeux communs et qu'on était sur un marché qui avait où libéraliser finalement ce marché et mettre en place un espace de libre-échange au sein de la zone pacifique entre territoires français du Pacifique sur lesquels finalement on a chacun des taxes, on a chacun des taxes douanières. Donc aujourd'hui, quand on veut exporter de la viande en Polynésie, c'est pas facile, il faut accéder au marché. Il paraissait important, indispensable que la Chambre d'agriculture et de la pêche se mobilise sur cette thématique pour mettre du lien avec les autres chambres consulaires de cette région pacifique et qu'on puisse vérifier, valider qu'effectivement il y avait un marché qui était bien plus important parce qu'on réunit nos trois territoires, on est à 550 000 consommateurs. Si on ajoute à ça les touristes, si on ajoute à ça tous les gens qui sont de passage, on a quand même un marché qui peut être captif. Et que notre viande, on en parlait tout à l'heure de l'excellente qualité de notre viande, il ne faut absolument pas se complexer vis-à-vis de nos concurrents. Et au contraire, il faut se dire qu'on a une complémentarité dans nos produits et qu'on peut trouver une place. On peut trouver une place sur le marché polynésien, on peut trouver une place sur le marché wallisien à des prix qui peuvent être compétitifs et avec une qualité qu'il faut mettre en avant.
Alors au-delà de la place à trouver sur ces marchés, ça peut être aussi vraiment une source de revenus pour la filière?
Alors, et évidemment, alors... On est sur des marchés qui doivent, aujourd'hui, on est sur des marchés de niche, qui doivent se conforter, qui doivent se vérifier. Mais derrière, c'est des marchés qu'il va falloir installer dans le temps. Et donc, une démarche commerciale à l'export, c'est une démarche qui s'installe dans le temps, qui doit être, bien comprise, bien acceptée et bien implanté sur le marché polynésien, sur le marché wallisien. Donc, c'est ce travail qu'on veut faire avec l'OSAF.
Sur ces questions d'exportation?
Alors, pour reprendre le sujet, comme je vous l'ai dit, là, aujourd'hui, on a effectivement des excédents de production qu'il nous faut traiter. On a l'opportunité, grâce à la démarche des chambres d'agriculture des trois pays, effectivement, francophones de la zone, de créer un embryon de marché commun. En fait, il s'agit de ça. Il y a chaque territoire ayant ses spécialités. On peut imaginer que chaque territoire aurait à gagner à, effectivement, étendre son marché. Et cette démarche a porté ses fruits, puisque nous avons, grâce à ça, concrétisé l'envoi d'un conteneur qui a été fait dans des conditions de crise, encore une fois. Si le projet doit perdurer, il faut effectivement qu'on normalise un petit peu nos productions pour répondre exactement à la demande des marchés concernés. Donc voilà, on est au tout début d'une aventure. Une chose certaine, c'est que c'est aussi quelque part une décision politique, effectivement, d'aller vers cette, cette orientation globale des trois marchés. C'est une opportunité, encore une fois, pour les trois. Et donc, je crois que ça valait le coup, dans tous les cas, de le tenter. On a envoyé un premier conteneur. On va avoir des retours avec certainement, puisque en étant importateur nous-mêmes, on sait quelles sont les difficultés. Certainement devoir s'adapter exactement à la demande du marché. Quoi. Mmh. Donc c'est un premier test qui donnera dans tous les cas des conclusions et j'attends ça avec impatience.
Oui, j'imagine. Bien évidemment, alors, le bœuf calédonien s'exporte, la filière produit bien. Vous avez évoqué la filière porcine aussi qui produit bien sur le marché calédonien. Pourquoi on a du mal aujourd'hui à ne pas développer la filière ovine? Je sais que c'est surtout dans le Nord qu'il y a eu des tests qui ont été faits et des élevages. Pourquoi la filière cervidée tarde à se mettre en place? Comment vous expliquez ça, Guy Monvoisin?
Alors, là, pour ce qui concerne la filière ovine, de ce que je sais des contacts qu'on a avec le président d'ailleurs du GEPA, elle est en train je pense qu'elle est en train de sortir un peu de cette ornière dans laquelle elle était depuis des années, parce que c'est comme tout, ça prenait pas, hein, voilà. Et là, elle a quand même une stratégie de développement et elle est très active. On commence à trouver du mouton local dans les boucheries. Là, je dois dire que la filière ovine, elle est en train de se développer, ovine et caprine. Hein? Donc, ils font de très gros efforts. La filière cerf, il y a eu énormément de problèmes. Je pense que M. le directeur de l'OCEF, il y a plus que moi, je pense qu'il y a aussi des problèmes de saisie sur les cerfs. Et donc, il y a eu des problèmes de commercialisation. Ils ont été très impactés pendant le Covid et les émeutes, et ils ont du mal à se relever, c'est sûr. Mais donc c'est aussi, je pense, une filière d'avenir. Et à mon avis, les gens sauront se retourner et puis repartir.
Samuel Prévost, est-ce que ça peut aider finalement le consommateur calédonien s'il trouve dans les étals de ses boucheries ou de ses grandes surfaces une variété de viande calédonienne, peut-être plus large que celle qui est aujourd'hui? Puisqu'on voit que la filière ovine, même si elle se développe un petit peu, la filière cerf qui a du mal à se mettre en place, mais voilà, est-ce que le choix de viande calédonienne est suffisant aujourd'hui pour attirer le consommateur?
Je pense que si on arrive à développer aussi bien l'offre au niveau de l'ovin local que du cervidé dans les points de vente, c'est quelque chose de très positif pour le consommateur, notamment en termes simplement d'approvisionnement. Parce qu'on le voit, les grosses difficultés que peut avoir l'OCEF à approvisionner en continu le marché, notamment sur les viandes ovines. Parfois, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie nous disent « Désolé, mais là, il n'y en a plus. Hein, on a une baisse de cheptel. La Chine nous prend tout à des prix exorbitants. »
Défiant toute concurrence.
Voilà. Donc, si on n'a pas de local, on n'en a pas, tout simplement. Sur l'ovin, il y a un gros dynamisme, mais il faut savoir qu'il y a à peu près 80% de la production ovine qui passe hors OCEF, qui passe dans des marchés de particuliers. Hein, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Mais le GEPR et son président veulent structurer cette filière et donner une dimension à des élevages qui sont pour le moment modestes, la possibilité vraiment d'augmenter leur cheptel. Bien sûr, il y a quelques difficultés techniques sur ces filières-là, mais on devrait retrouver de plus en plus fréquemment ces viandes sur les étals, et ce sont des viandes qui se démarquent par leur qualité. Quand on les fait déguster, aussi bien la viande de cerf d'élevage que la viande d'ovin local, et de caprin d'ailleurs, on a fait déguster des cabris à la foire de Bourail, le public est étonné de la qualité. C'est pas forcément des viandes qu'il va retrouver tous les jours dans les rayons boucherie, mais quand il les retrouve, quand il les déguste, il est très étonné de la qualité. Donc on se démarque là en termes de fraîcheur par rapport à de l'importation, et dans les modes de production, dans le travail des upras, de la génétique, dans le travail de l'élevage, on arrive vraiment à un produit d'exception et qui peut d'ailleurs se valoriser sur des niches également à l'export. Parce qu'on a vraiment un produit qui se démarque, et les consommateurs sont là pour en témoigner.
Frédéric Espinoza.
Il me semble important de re-soulever le sujet du commerce international et du contexte international, parce qu'effectivement, on connaît le milieu de la viande depuis des décennies, et il y a une évolution qui est marquée depuis quelques années, c'est l'augmentation des prix. L'augmentation des prix qui correspond en fait à une augmentation de la demande mondiale, avec des pays émergents qui sont développés, comme la Chine, le Brésil, qui avant n'étaient pas importateurs de viande et ne consommaient pas beaucoup de viande. Aujourd'hui, ils sont forts consommateurs et la production à l'échelle mondiale ne suit pas. Et donc, du coup, les prix internationaux ont augmenté considérablement comme tous les prix d'ailleurs des matières premières, hein, parce que la consommation, la population augmente aussi. Et au-delà de l'augmentation des prix, on arrive effectivement à des situations où aujourd'hui on ne trouve plus les productions. Quand on cherche à s'approvisionner et à réguler le marché en important, depuis 2 ans, on a des difficultés et quelquefois on a des portes qui se ferment en disant non, on n'en a plus. Mmh. Et ça, c'est nouveau. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'autosuffisance, la sécurité alimentaire, c'est pas une croisade à négliger. Il faut maintenir l'élevage local parce qu'il répond à cet enjeu. On l'a vu lors de la Covid, on l'a vu lors des exactions du 13 mai, post-13 mai. Il n'y avait plus un navire qui arrivait sur le territoire et pourtant les populations n'avaient plus de farine, n'avaient plus de beaucoup de produits, mais avaient encore accès à la viande. Et à la pomme de terre. On a à l'OCEF des stocks stratégiques qui permettent d'alimenter les populations pendant plusieurs semaines. Et c'est effectivement quelque chose qui est important à l'échelle d'un territoire insulaire comme le nôtre.
Guylain de Coudenove.
Oui, non, pour aller dans le même sens, effectivement, en ce moment où on se rend compte qu'il faut absolument préserver le revenu des agriculteurs, c'est ce qu'on disait en première partie de l'émission, dans ce contexte un peu de crise, et qu'il faut aller, donc il faut absolument le préserver par de fait un enjeu de sécurité alimentaire, hein, donc qui est majeur. Et dans ce contexte, il faut aller voir des marchés à l'export. Et que notre viande, et on était lors de la foire de Lubourail avec le commissaire général du concours général agricole de Paris, Olivier Allemand, qui a bien mis en évidence qu'on avait un produit d'exception. Hein. Donc encore une fois, il faut pas se méprendre sur et avoir une espèce de complexe d'infériorité sur la qualité de notre viande. Au contraire, elle se démarque clairement des autres par des races qui sont aujourd'hui peu vendues, peu commercialisées, qui ont vraiment des atouts importants. Et aujourd'hui, on voit que la métropole s'intéresse clairement, hein, aux races calédoniennes, aux races brahmanes. On va voir que lors du prochain salon de l'agriculture, la race brahmane va être à l'honneur. La race brahmane, c'est les calédoniens, les éleveurs calédoniens qui sont techniquement très, très en avance sur la génétique et sur le fait de pouvoir avoir une race résistante à la tique notamment, qui vont mettre en évidence la qualité de cette viande. Et donc on a vraiment aujourd'hui une porte un petit peu vers les marchés export. Alors comme on le disait tout à l'heure, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Il faut prendre le temps, il faut vérifier que nos prix, que nos produits sont complémentaires, qu'ils sont attendus. Mais on a des marchés qui existent et je crois qu'au niveau de l'ensemble des éleveurs, de la filière, il faut que on s'oriente vers cette perspective de façon déterminée. Mmh. Hein, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec cette dynamique qu'on porte avec tous nos partenaires.
Guy, mon voisin, pour terminer, un éleveur au quotidien, il passe beaucoup de temps évidemment auprès de son cheptel. Est-ce qu'il est conscient de tous ces enjeux ? Est-ce qu'il s'inquiète aussi de ce contexte international qu'on a décrit, à la fois avec un besoin de viande et finalement une pénurie parce que les prix ont du mal à suivre ? Est-ce que vous êtes conscient de tout ça et est-ce que ça influe sur votre quotidien ?
Ah ben, bien sûr que tous les éleveurs, parce de toute façon, ce sont des sujets qu'on déroule à chaque fois qu'on peut se réunir, hein. Donc on est. Mais je pense que c'est pour ça aussi que l'élevage est résilient. Si comme je vous ai dit tout à l'heure, on a globalement toujours maintenu notre niveau de production, c'est parce qu'on est conscient de ces enjeux. On est conscient d'abord de notre rôle dans le milieu rural. On est conscient que le monde tourne, on a vu comment le monde tournait en ce moment, hein, et que certainement peut-être les prochaines crises seront alimentaires, et que nous, on se tient prêt, on dit de toute façon, nous on est là pour nourrir, on est là, notre métier c'est de nourrir les gens et d'élever nos bêtes. Hein, et heureusement, on le fait bien.
Et c'est salué, effectivement. La qualité de la viande est saluée unanimement. Hein.
C'est ça, c'est cela même. Et là, je dois dire, s'il faut terminer sur une note positive, c'est que les pluies qu'on a eues, malheureusement à la foire, on l'a dit, hein, mais qu'on a encore là au mois d'août, donc c'est une saison que, pour mémoire d'éleveur, il y a bien longtemps qu'on n'avait pas connue. Hein. Donc je vais, sur une note positive, comme je l'ai dit, je vais rassurer nos consommateurs qui nous font confiance, et il y aura encore de la belle viande calédonienne sur les étals.
Voilà, et qui aura brouté de la bonne herbe.
Voilà, de la bonne herbe bien grasse et bien verte.
Eh bien, on va terminer avec ça, Guy, mon voisin. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu consacré à la filière viande. Ils seront à retrouver, évidemment, dans quelques instants sur notre site internet rrb.nc. Merci à tous et bon après-midi.
Merci. C'était les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.